I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je bossais au McDo, j'avais 3 jours de fac, j'avais en plus mes 6 entraînements par semaine, plus les déplacements le week-end, donc c'était une vie totalement dingue, quoi. Après, j'ai signé pro à Montpellier, donc... Je vais même pas dire que la situation s'est améliorée parce que ce premier contrat pro, je le signe pour 400 euros brut mensuel. À l'époque, on se dit, bah, c'est déjà bien, c'est la première fois que je touche de l'argent pour jouer au foot. On est naïve du monde professionnel, enfin, je veux dire. Moi, j'avais aucune conscience, je me rendais même pas compte que, en fait, j'étais payée 2 euros de l'heure.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Mélissa Plaza. Salut Mélissa.
Salut.
Comment ça va ?
Bien, super.
Merci beaucoup de venir dans l'histoire de succès. T'as une, comme tu le disais là juste avant qu'on démarre, t'as l'impression d'avoir, tu disais j'ai l'impression d'avoir 1000 vies, mais c'est vrai que j'ai l'impression que t'as eu 1000 vies.
Oui, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu 1000 vies.
Alors que t'as 33
ans.
33 ans.
33 ans, c'est vrai, c'est passé très vite et en même temps, je réalise que c'est passé vite parce que justement j'ai déjà vécu des milliers de choses, j'ai déjà eu... plusieurs métiers totalement différents dans lesquels je me suis complètement épanouie. Et c'est vrai que quand je regarde aujourd'hui derrière moi, je me dis waouh, c'est déjà un sacré parcours et je ne sais pas ce que me promettent les 30 prochaines années, mais si elles sont aussi belles que les premières, ça risque d'être un spectacle de haute volée.
Donc tu es connue et on te connaît parce que tu as été joueuse de foot professionnelle pendant toute une carrière que tu as arrêtée là il y a quelques années, on va en reparler. Mais tu es aussi chercheuse tu as passé une thèse, c'est ça, en sociologie ?
Oui,
c'est ça.
En psychologie sociale.
Psychologie sociale, absolument. Ce qui est aussi un truc. Et puis aujourd'hui, depuis la fin de ta carrière, tu es conférencière et puis on va aussi parler de... De tes slams.
De mes slams, ouais. Conférencière, écrivaine, voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. Et c'est marrant, tu disais que j'étais connue pour ma carrière de footballeuse professionnelle, mais en fait j'ai été connue un peu post-mortem, si j'ose l'expression.
Terrible.
Parce que finalement j'ai été plus connue après ma carrière en tant que joueuse de football ou en tant qu'ancienne joueuse de football que pendant ma carrière, c'est ça qui est un peu risible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on me connaît en tant que ex-footballeuse professionnelle et puis évidemment en tant que conférencière, mais j'ai pas eu on va dire la reconnaissance de footballeuse que j'aurais escompté avoir à l'époque où j'étais joueuse, en fait, où j'étais en activité.
C'est un truc qui te frustrait à l'époque?
Je pense qu'à l'époque ça m'a peiné de pas être reconnue à ma juste valeur. Je le dis souvent, mais j'ai été une joueuse très en colère. J'ai été de toute façon une petite fille très en colère, une jeune femme très en colère et une footballeuse entre guillemets professionnelle. Je mets des guillemets parce que on est très, très loin d'avoir les moyens et la reconnaissance d'une joueuse professionnelle. J'ai été une joueuse aussi en colère à juste titre. Hein. J'avais 1000 très bonnes raisons d'être en colère. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert et j'étais pas la seule à souffrir de ce manque de reconnaissance dans ce milieu-là. Ouais.
Ça change un peu là ces dernières années, t'as l'impression ? où tu as un peu plus de couverture médiatique pour les femmes dans le foot, ou tu es un peu plus mitigée sur le sujet?
Non, je suis très mitigée. Okay. Puis moi, je vois souvent le verre aux trois quarts vide.
Ah ouais, okay.
Enfin, je le vois aux trois quarts vide parce qu'il est réellement aux trois quarts vide. En vérité, en fait, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Donc, c'est vrai que là, avec la Coupe du Monde qui a eu lieu en France, on a l'impression que les choses ont évolué, que les femmes aujourd'hui sont pleinement considérées, qu'elles sont choyées dans tous les clubs, et ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, elles le sont dans certains clubs, dans les trois grosses écuries qui sont connues aujourd'hui, qui sont Lyon, PSG, Montpellier. Mais partout ailleurs, la situation reste la même. Et aujourd'hui, juste pour donner un chiffre qui est assez significatif, c'est qu'il n'y a que 10% des joueuses de D1 et de D2, donc les deux plus hauts niveaux nationaux.
Donc, censés être professionnels, entre guillemets,
voilà.
C'est ça?
Voilà, il n'y en a que 10% qui vivent exclusivement du football. Toutes les autres sont payées sous la table, à peine défrayées. Elles ont toutes un boulot à temps plein à côté. Et voilà, et pour la plupart, elles sont dans une précarité absolue. Beaucoup n'arrivent même pas, avec leurs deux boulots, à avoir un SMIC, quoi. Donc, c'est une situation qui reste assez inquiétante.
On va reparler de tout ça, mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est: à quoi tu ressemblais, Mélissa, quand tu avais 7-8 ans?
J'étais une petite brindille. une petite brindille, mais très déterminée. J'avais déjà bien en tête ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas être aussi. Je pense que ça a été très important pour moi de savoir ce que je ne voulais pas être. Je me suis beaucoup construit en opposition par rapport à mes parents.
Qu'est-ce que tu voulais être et qu'est-ce que tu voulais pas être?
Je voulais surtout pas être comme mes parents.
Okay.
Ça a été quelque chose de fondamentalement important dans ma construction identitaire. Je savais d'où je venais et je savais que je voulais pas y rester.
Tu venais d'où?
Je venais d'un milieu très violent. Un milieu avec beaucoup de violence intrafamiliale, un milieu socialement défavorisé, avec un accès à la culture impossible, avec des carences affectives, émotionnelles très importantes. Et puis ça, je vais le comprendre beaucoup plus tard. Avec de l'inceste que je vais réaliser plus tard, parce que j'ai fait une grosse amnésie traumatique pendant près de 30 ans.
On va en reparler, hein, mais j'imagine à quel point ça a marqué ton parcours, quoi.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, ça éclaire un petit peu cette colère qui m'habitait. C'est-à-dire que souvent, cette colère, elle est restée longtemps incomprise. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps en colère. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, et j'avais évidemment une raison très légitime à cette colère. Mais du coup, j'ai grandi comme une petite fille déterminée à partir de cet endroit, à fuir ces gens chez qui j'étais tombée de manière absolument fortuite, parce que voilà, j'étais née au mauvais endroit avec les mauvaises personnes.
Ah, t'es convaincue de ça?
Aujourd'hui, je me dis que ça faisait partie de l'histoire, et que sans doute j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas eu cette histoire. Mais c'est vrai que c'était pas une enfance idyllique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est même un euphémisme.
Ils faisaient quoi? Ils font quoi, tes parents, comme métier?
Ils ont beaucoup vagabondé, ils ont fait beaucoup de choses différentes. Ma mère a fait pas mal de services. Mon père était ouvrier, ma mère était aussi ouvrière. Mais c'est pas des choses dont j'ai très envie de parler. J'ai pas très envie de parler d'eux.
Ah, c'était juste pour comprendre, quand tu parles d'un milieu défavorisé, en fait, comprendre un petit peu d'où tu viens, en fait, tu vois.
Ouais, j'ai eu des parents très violents, des parents qui étaient dans la drogue, dans l'alcool, avec des conduites sexuelles à risque. Et puis surtout, de l'inceste au quotidien, mais ça je l'ai compris que plus tard. En fait, j'ai posé des mots que plus tard sur tout ça.
On va en reparler, parce que c'est venu lors de la... Enfin, ça t'est remonté lors de la sortie de ton premier livre, c'est ça, en 2019?
Absolument. Un livre dans lequel je relate mon parcours, mon enfance. un livre dans lequel je pensais avoir tout consigné. Et puis quand le livre est sorti, et alors que tout était censé aller pour le mieux, pour moi, puisque j'avais la réussite sociale que j'avais toujours espérée, eh bien tout s'effondre. Hein. Tout s'effondre sans que je ne parvienne à mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce qui m'arrive. Donc je suis terriblement angoissée, je dors plus la nuit, je dors plus genre plus une minute la nuit, quoi.
Et comment ça se manifeste, tu as une boule d'émotion, c'est ça, et tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas pourquoi, ton cerveau il continue à, parce que le cerveau est bien foutu, il nous protège.
Ouais,
il continue à protéger, c'est ça.
Bah en fait, il nous alerte, l'alerte est maximale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sort d'amnésie au moment où on est prête à le faire. Et quand je dis prête, j'entends prête au sens sécurisé. Sécurisé sur le plan économique, sur le plan affectif, sur tous les plans. L'idée, c'est que on sort d'amnésie quand il nous est possible de sortir d'amnésie, c'est-à-dire quand on n'est plus en danger, quand on n'est plus entouré de ses agresseurs, etc., etc. Et donc, moi, ça se manifestait de plusieurs façons. En journée, j'allais avoir, une boule dans la gorge omniprésente ou un poids sur le plexus très important qui m'empêchait de respirer. Donc, je suffoquais en permanence. J'avais l'impression parfois qu'on m'étranglait alors que j'étais toute seule dans la pièce. Il y a vraiment, enfin, il y a de quoi devenir folle, quoi. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est surtout, voilà, ces angoisses. Ces angoisses nocturnes où, en fait, je parvenais pas du tout à m'endormir. Mon cerveau ne s'éteignait plus. Et j'avais de la tachycardie, mais ça durait, je sais pas, 4-5 heures, quoi. Et donc, j'ai traversé cette période dans une solitude effroyable.
Ah ouais.
Parce que c'était le moment où j'avais le plus de conférences. C'était le moment où il y avait la promotion du livre, où il fallait donner le change sans arrêt.
Fallait pas flancher, quoi.
Fallait pas flancher. Et en fait, ce qui était fou, c'est que la solitude, quand elle tape à ta porte ou qu'elle tape à la porte de ton hôtel 4 étoiles, elle est encore plus virulente, quoi. Elle est encore plus cinglante, cette solitude. Et ça a été très dur. J'ai eu vraiment un an et demi d'errance médicale parce que je ne trouvais personne qui était en capacité de me dire ce qui se passait pour moi.
Ah, parce que pour toi, c'était physiologique, c'est ça? Tu n'avais pas encore fait le lien avec...
Absolument pas.
Ok.
À ce moment-là, je ne sais pas ce que je traverse. Je ne le comprends pas.
Tu as mis un an et demi à comprendre...
À avoir un diagnostic. Et au bout d'un an et demi, j'ai quand même une psychologue, parce qu'en plus, j'ai dépensé une somme d'argent astronomique dans des médecines alternatives, parce qu'on se dit toujours, bon, ça va aller, je vais faire de l'acupuncture, enfin... Voilà, on se dit que ça va aller, que c'est pas si grave. Et puis finalement, je tombe sur cette psychologue bienveillante qui me dit, en fait, non, vous faites un stress post-traumatique. Et le moment où elle pose ce diagnostic, ça a été quelque part un soulagement pour moi de me dire, bon, ok, j'ai quelque chose, c'est quelque chose de grave. C'est normal que j'ai ressenti ça parce que j'étais vraiment très mal au point d'avoir... parfois envie de mourir, quoi, très clairement. Et donc, cette dame pose ce diagnostic et là, je commence à faire de recherches sur l'état de stress post-traumatique, sur qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les conséquences, est-ce que c'est ce que j'ai, etc. Et j'ai trouvé cette fabuleuse ressource qui est le site de mémoiretraumatique.org, qui est le site qui a été créé par Muriel Salmona, qui est psychiatre et qui est présidente de l'association de victimologie et traumatologie. Et en parcourant ce site, je me reconnais partout, quoi. Je me reconnais dans chaque ligne, dans chaque chapitre, sur chaque page. Et à la fois, c'est terrifiant et en même temps, c'est soulageant. Parce que je me dis, ok, donc c'est vraiment ça. Je comprends qu'en fait, le stress post-traumatique, on l'envisage très bien pour quelqu'un qui a vécu un attentat, mais on l'envisage pas du tout pour quelqu'un qui aurait vécu des violences sexuelles. Et puis, ma grande chance à moi, c'est que j'ai un réseau féministe extraordinaire qui va me mener tout droit à Muriel Salmona. Donc, voilà, 2 ans et demi après la sortie du livre, j'ai une première séance avec Muriel. Et ça a été...
Donc là, c'était il y a quelques mois, si je me trompe pas.
C'était en novembre 2020.
Ok.
Et ça a été... ça a été absolument fabuleux et radical parce que, évidemment, quand on a quelqu'un de formé qui remet le monde à l'endroit, on comprend tout de suite ce qu'on a vécu. Et voilà, et en fait, j'avais fait une amnésie traumatique très forte parce que j'ai été violée de mes 3 ans et demi à mes 12 ans, donc très jeune. C'est un facteur aggravant pour l'amnésie. Et une double amnésie parce que, en fait, et c'est ce que j'essaye de dire aussi sur les réseaux, c'est que mon beau-père nous sédatait chimiquement. Et en fait, il faut pas se leurrer, c'est que c'est quelque chose de très commun. C'est pas la soumission chimique, c'est pas simplement le GHB en boîte de nuit, même si c'est très fréquent aussi. C'est aussi le soi-disant de mon père de famille. Qui met des cachetons à sa femme ou à ses enfants pour les violer, aussi parce que c'est trash, mais ça évite les déchirures musculaires, ça évite les déchirures, hein, tout simplement. Et donc ça évite les traces. Ouais. Voilà. Donc du coup, une amnésie d'autant plus forte qu'elle a été accentuée par mon très jeune âge et par le fait que j'étais sédatée dans ces moments-là. Donc, évidemment, il y a plein de choses après coup qui font sens. C'est-à-dire, on revoit plein d'aspects de sa personnalité, plein de comportements, plein de phobies sociales ou de phobies tout court qu'on expliquait jusqu'à présent par une sorte d'anormalité ou de... Voilà, je suis bizarre, voilà.
Ouais.
Je suis simplement bizarre. Et après, tout ça est éclairé par un jour nouveau, en fait.
Tu remets les pièces du puzzle dans le bon ordre, quoi.
Exactement. En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand on vit un événement traumatique, et d'autant plus c'est un traumatisme complexe parce que violence répétée, etc., c'est vraiment comme si quelqu'un avait mis un coup de poing sur la table au milieu du puzzle, que les pièces étaient répandues partout dans la salle, qu'il fait nuit noire et que le puzzle est bleu nuit, quoi. Et du coup, là, il faut essayer de chercher les pièces, les remettre au bon endroit. Ça s'assemble progressivement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de... c'est un investissement, une introspection... constante, en fait.
Oui.
Voilà, faut être sa propre police judiciaire, en quelque sorte. Et du coup, c'est un travail que j'ai fait avec Muriel, c'est un travail que je fais beaucoup par les mots, puisque j'ai écrit un deuxième livre dans lequel je raconte l'après-sortie du livre, ouais. Qui n'a pas trouvé de maison d'édition encore, mais...
Mais comment c'est possible ?
Eh bien, parce que c'est un livre qui est à l'endroit... C'est un livre qui pointe du doigt les agresseurs, qui pointe du doigt les écueils d'un système qui assure l'impunité des agresseurs. Et je pense que c'est un livre qui dérange, nécessairement. Mais pour autant, c'était pour moi cathartique, quoi. Au moment où j'écris ces mots, je ne peux pas faire autrement que d'écrire. En fait, c'est contrairement au livre qui s'appelle L'écriture ou la vie, moi, c'était plutôt L'écriture ou la mort. Donc vraiment, quand j'écris, je le fais parce que je me dis je vais me sauver par l'écriture. Donc au début, j'écrivais parce que je ne savais pas nommer ce qui m'arrivait. Et puis, petit à petit, à force de m'interroger, de visiter le site de Muriel Salmona, d'écouter ses conférences, de lire ses livres, et pas que ses livres, mais d'autres encore, petit à petit, le puzzle prend forme. Et petit à petit, j'arrive à comprendre. Et l'écriture prend un autre tournant, puisque ça devient une écriture pédagogique avec une volonté d'éduquer, de sensibiliser, de faire comprendre à tout le monde ce que c'est que la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, comment ça se manifeste. Parce que ben, aujourd'hui, on s'aperçoit que les victimes, elles ont souvent le même parcours. Qui est un parcours d'errance, d'incompréhension, de mépris aussi. On est souvent victime du mépris de la société. Donc on se retrouve avec des femmes ou des jeunes femmes qui ont des symptômes qu'on dit pathognomoniques, c'est-à-dire qui sont spécifiques aux violences sexuelles. Mais comme la société souffre d'une cécité à l'égard des violences sexistes et sexuelles, eh bien, elle n'est pas en capacité de voir que ces symptômes sont précisément les conséquences des violences sexuelles subies. Typiquement, par exemple, les troubles du comportement alimentaire, la toxicomanie, l'alcoolisme, ça va être les conduites à risque, les conduites d'automutilation comme les scarifications. Tout ça, ce sont des indices extrêmement significatifs et extrêmement éloquents. Et ce sont des traces matérielles, même si on ne veut pas aujourd'hui le considérer comme des preuves matérielles. Mais ce sont des preuves matérielles et tangibles des conséquences, des violences qui ont été subies plus jeunes.
Je tiens juste à dire que si vous êtes un mec et que ça peut aussi vous arriver, quoi. Alors je sais que la plupart des violences sexuelles sont plutôt faites par des hommes vers des femmes, mais en fait je tiens à le dire parce que on a déjà eu des dans mon podcast Histoire de mec, notamment un mec qui a été victime de violences sexuelles, d'inceste, etc., et qui a eu beaucoup de mal à trouver de l'écho parce que justement aujourd'hui la parole est donnée aux femmes, et heureusement. Mais en fait, quand t'es un mec et que t'es là, alors moi aussi j'ai l'impression que ça me concerne, c'est vachement dur de trouver voix au chapitre, en tout cas, tu vois. Donc c'est pour ça
que c'est important de le dire. Et en fait, ce qui est important de souligner aussi, c'est que en fait, généralement aussi, donc les garçons et les filles subissent de l'inceste ou de la pédocriminalité, mais du fait de l'asymétrie qui existe dans nos sociétés et du fait du patriarcat, majoritairement les femmes retournent la violence qu'elles ont subie contre elles-mêmes. Ouais. Et les hommes, en majorité, vont retourner la violence subie contre les autres. C'est comme ça qu'en fait, des petits garçons violés deviennent violeurs à leur tour. Ouais. Et c'est comme ça que des petites filles violées vont se faire du mal, faire des tentatives de suicide. On a du mal à comprendre la scarification, etc. Mais ce sont des conduites, en fait, qui permettent de se dissocier, c'est-à-dire de s'anesthésier émotionnellement et physiquement pour ne plus ressentir la mémoire traumatique. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très peu abordés aujourd'hui dans notre société. Et moi, l'idée de ce livre, c'était aussi de les donner à voir et de les donner à comprendre. Parce que ma mission, c'est d'arriver à vulgariser des choses qui sont parfois compliquées et parfois inaccessibles pour les rendre accessibles à tout le monde.
C'est ta mission aujourd'hui? Tu considères que c'est ta mission? C'est intéressant parce que tu...
Ouais.
Non, mais je vois que tu... Les gens ne le voient pas, mais je vois que tu as un petit sourire en me disant « Est-ce que je peux m'autoriser à dire que c'est ma mission ?» Mais oui. Tu viens de le dire.
Oui, je pense que c'est ma mission parce qu'en fait, je pense que j'ai deux grosses forces. La première, c'est de savoir manier les mots. Et la deuxième, je dirais, c'est de savoir partir de quelque chose de très complexe et d'en faire quelque chose de simple et de compréhensible par tout le monde. Et quand on a ces deux forces, je pense que c'est intéressant, important et d'utilité publique de pouvoir les mettre à disposition. Et donc c'est ce que je fais, notamment dans les slams en fait, parce que je pars d'une histoire de femme très complexe, avec de multiples facteurs, de multiples variables.
Attends, mais tu t'expliques là que tu fais des slams, mais...
Je suis partie dans tous les sens.
Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement je crois que c'est un prolongement, juste pour terminer sur ton livre qui n'est pas édité.
Oui.
Pour l'instant. Je sais qu'il y a des gens qui sont éditeurs et éditrices qui nous écoutent.
Oui.
On peut te contacter où? Sur Instagram, par exemple? On peut t'envoyer un DM?
Oui, sur Instagram, sur mon site internet.
Ok.
Voilà, c'est un livre qui aurait toute sa place aujourd'hui dans les mains de tout le monde.
Tu sais que c'est intéressant parce que j'ai reçu dans Histoire de Daron Mylan. Je ne sais pas si tu as suivi ce que Mylan a fait. Mylan est chanteuse. Je mettrai un lien dans les notes pour les gens qui... Mylan est chanteuse et en fait, c'est pareil, elle a été victime d'inceste. Et elle, pour le coup, elle ne l'a jamais oublié, mais... c'est sorti à l'âge adulte par l'intermédiaire d'une chanson en fait, où elle a écrit un peu en écriture automatique, bah, sans doute ça te parle, et elle a galéré, elle en a fait un livre jeunesse en fait pour les enfants, pour expliquer ce qui se passe, etc. à travers un loup, tu vois, le loup c'est le méchant, c'est...
Ouais.
Et elle a galéré à trouver un éditeur, donc parce que en fait le tabou il joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que les éditeurs disent en fait on va pas mettre à côté de Tchoupi un bouquin où on va expliquer aux enfants l'inceste. Bah si, au contraire, c'est bien hyper sûr. Important. Donc pardon, c'est tout ça pour te dire.
Si des maisons d'édition nous écoutent,
voilà, n'hésitez pas. Envoyez un petit message à Mélissa parce que comme tu dis, je sens que ton bouquin est un bouquin comme tu dis à l'endroit.
Oui.
Et qu'en fait, il mérite.
À l'endroit, et puis qui. Enfin, pour enchaîner du coup sur l'islam, c'est que une fois que j'ai eu terminé ce livre, je suis d'une nature extrêmement impatiente. Et puis je fuis la lassitude comme la peste. Donc du coup, je me suis mise à écrire un premier slam au sortir d'une histoire de cœur compliquée avec un pervers. Et je me suis dit tiens je vais écrire la rage que j'ai en moi, je vais écrire ce qui tourne pas rond dans tout ce que je viens de vivre depuis quelques semaines, et j'ai fait ce premier slam que j'ai intitulé Les pervers narcissiques, et ça a bien marché. Les copines féministes m'ont dit mais c'est super, tu devrais faire un blog. Et je sais pas, blog ça me semblait un peu old school. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas ouvrir un compte Instagram du même nom que mon livre, mon second livre qui s'appelle La Taxe Écarlate. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un compte Instagram sur lequel je slame. Alors c'est assez simple, en fait, je déclame des slams dans l'impudeur d'une face cam. Voilà, on voit que mon visage. Au départ, je slame mes états d'âme, je slame mon histoire, je slame mes coups de gueule sur ce qui se passe dans l'actualité, etc. Mmh. Et puis, à un moment, je me dis, mais tiens, pourquoi pas aussi slamer l'histoire d'autres femmes ? Pourquoi pas aider d'autres femmes à comprendre, à mettre la lumière au bon endroit, peut-être à les faire avancer là où elles se situent dans une impasse, voilà. Et donc je fais ce premier slam sur l'histoire d'une copine à moi qui s'appelle Natacha, qui avait vécu l'enfer des violences conjugales, qui avait survécu aux violences conjugales parce qu'elle a vraiment failli mourir des violences conjugales. Et j'écris ce premier slam et ça a été jubilatoire de pouvoir mettre en mots son histoire, de voir à quel point ça sonnait juste pour elle, ça sonnait juste pour moi aussi, à quel point on pouvait rendre justice avec les mots, et à quel point aussi on pouvait donner le bon éclairage. Parce que souvent dans ces histoires, il y a toujours un petit clair-obscur. Il y a toujours un endroit où on n'est pas trop certaine qu'il y a un truc qui n'est pas net. Et pourtant, c'est là que ça se joue, en fait.
Tu veux dire, en tant que femme, c'est ça ? Tu ne sais pas trop quelle est la situation ?
C'est pas ça, c'est plutôt qu'il y a toujours un élément déclencheur et qu'on ne sait pas toujours lequel c'est en réalité. Et bien souvent, en fait, il y a une part sombre de l'histoire qui explique notre état actuel, notre état d'anxiété permanent, etc., mais qu'on n'a pas réussi à identifier. Et donc moi, je viens tirer les fils et je viens mettre le projecteur au bon endroit en lui disant, écoute, je pense que cette partie-là de ton histoire, c'est peut-être celle-là qui pose un peu problème. Alors, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais j'ai tellement lu sur le sujet, je suis tellement bien accompagnée par Muriel Salmona qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'analyser.
Tu t'es formée.
Voilà, je me suis formée. J'ai passé une validation d'expérience ou validation d'acquis, d'expérience, je ne sais plus comment on dit, la VAE, là.
Ouais.
C'est vrai que souvent... En fait, pour elles, ça, c'est très précieux parce que de poser des mots justes sur ce qu'elles ont vécu, c'est déjà en soi un cadeau. Mais en plus, quand j'arrive à pointer du doigt ce qui pose encore problème pour elles aujourd'hui et qui n'est pas résolu, bah, ça les aide aussi dans leur processus thérapeutique, quoi.
Je te racontais là, quand t'es arrivé, que vraiment 3 minutes avant, j'étais en train d'écouter ton slam sur... je crois, ta propre histoire d'inceste.
Ouais.
Ça te dérange pas si on l'écoute ?
Absolument pas.
Ok. Alors, comment ça marche ? Pardon. Antoine qui monte va faire un petit montage. Mais en fait, je voudrais bien qu'on l'écoute ensemble, si tu veux, plutôt que de le mettre en post-prod. Ouais. Arrêtez ! J'ai l'impression d'être vieux parfois. Je suis là. Mais comment ça marche, Instagram ?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Voilà.
Mon livre est sorti et le sommeil s'est enfui. Il n'a laissé place qu'à de funestes angoisses, des idées crasses, tenaces. Oui, la nuit, le silence menace. Dans cette obscurité, mes projecteurs sont allumés. Ils esquissent l'insomnie, noircissent tout éclairci. Dans cette nébuleuse, mon cœur cogne creuse. Il s'agite et je gis terrassé à nouveau dans le passé. Le cerveau emprunté, je ne m'appartiens plus tout à fait. Car J est revenu faire mumuse avec son jouet. J tapisse mes nuits, mes cauchemars, il rit, tout goguenard. J a enfilé son costume des grands soirs. C'est comme ça qu'il aime m'envoyer à l'abattoir. J n'a pas lésiné sur les opiacés. Inerte, sédatée, c'est ainsi qu'il préfère me souiller. J prend son fixe toutes les nuits et rien ne lui survit. Rien, oui. Plus rien, je ne suis. Trente ans ont coulé, mais le présent est comme gelé dans le passé. Dans son absence, J continue d'étriller. Le pied dans l'étrier, il ne m'offre aucune clémence. Ubiquité démoniaque, il traque et matraque toute velléité paradisiaque. J, tes infamies, ma tête les a longtemps enfouies. Mais mon corps, lui, ne s'en est jamais remis. Aucun droit à l'oubli n'est permis dans l'amnésie. Ma dépouille se souvient, vieux diable, de ton chibre, de tes mains, en codages indélébiles, dans ma chair servile. Pour moi, inceste à perpétuité. Pour toi, 7 décennies d'impunité. J. Mon oubli était sans doute ton meilleur alibi. Mais à toi maintenant, de récupérer tout ton fourbi.
Waouh, c'est pareil, ça fait pareil la deuxième fois.
c'est pas le meilleur en termes d'élocution, mais
attends, oui, bon, d'accord, si tu veux. Si je puis me permettre, c'est que de la forme, et en fait, on s'en fout un peu.
Ouais,
d'accord.
Après, le texte est
tellement puissant que.
Et puis c'est vraiment parce que c'est vrai que je l'ai écrit à un moment particulier. Je l'ai écrit à un moment où c'était difficile, où j'étais dans le dur. Et je vais pas dire qu'aujourd'hui tout ça c'est derrière moi, parce que ce serait mentir. Et puis voilà, je, disons que ça, ça va de mieux en mieux, qui me laisse un peu plus tranquille la nuit. Mmh. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. Et puis surtout, heureusement pour moi, et c'est ce que je dis souvent, c'est que je fais partie des privilégiés, entre guillemets. Évidemment pas au sens de ce que j'ai vécu, très clairement, je souhaite ça à personne. Mais je fais partie des privilégiés en tant que femme dans cette société qui a des moyens économiques de pouvoir s'offrir des soins. Qui a des moyens, qui a eu un réseau féministe extraordinaire pour aller jusqu'à Muriel Salmona, qui est débordée et qui croule sous le nombre de patientes. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir eu la possibilité d'être suivie par cette femme extraordinaire. Et donc du coup, forcément, ça avance plus vite quand on est bien suivi. Je veux dire, en moyenne. On met, en tant que victime, on met à peu près 8 ans avant de trouver la bonne personne formée et compétente pour nous accompagner sur le sujet.
Ça vient aussi du tabou, j'imagine, qu'il y a autour de tout ça. C'est que forcément, toi, tu vas voir, tu as dit un an et demi de médecine alternative, etc., avant que de trouver quelqu'un qui pointe du doigt le truc, quoi. Ça veut dire que...
Ouais, et puis un an et demi de... Au-delà de l'errance médicale, c'est du mépris. Je raconte dans le second livre à quel point parfois les psychiatres qui ne sont pas formés sont d'une... C'est même pas d'une maladresse, mais c'est vraiment d'une condescendance innommable, quoi. J'ai voilà, des psychiatres qui ont placardé sur leur mur des caricatures de patients qui souffrent de leur obstination à souffrir. Des psychiatres qui te demandent la première séance alors que t'as même pas raconté pourquoi t'es là, qui te posent la question mais madame, vous êtes vivante, n'est-ce pas? Donc sous-entendu, en fait, de quoi tu te plains? Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir cette jeune femme très belle qui
oui,
semble avoir...
Oui,
c'est quoi son souci? De quoi elle peut se plaindre, franchement? Et par ailleurs, j'ai aussi fait le tri dans mes amis, puisque il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas capables de supporter ces afflictions, qui tournent le dos à la souffrance quand elle est trop importante, ou qui estiment que parce que tu t'appelles Mélissa Plaza, que tu as réussi socialement, alors dans cette société capitaliste, voilà, que tu as réussi socialement, que tu as de la visibilité sur les réseaux, que tu commences à être connu, que tu ne peux pas souffrir, que tu dois forcément aller bien, puisque tu as une vie que beaucoup t'envient. Et donc c'est aussi un moment de solitude extrême où tu te dis, bon, ok, ces gens-là sont peut-être pas des amis finalement. Ces gens-là ne veulent peut-être pas mon bien. Donc c'est un moment, je parle d'errance parce que ça a été vraiment ça, où à chaque fois que tu tapes à la porte de quelqu'un pour essayer de dire ce que tu n'arrives même pas toi à nommer, ce que tu n'arrives même pas à comprendre, ce ça-là qui te ronge, qui te bouffe à l'intérieur, et que tu ne sais pas où déposer ça, tu ne sais pas. Voilà, parce qu'à chaque fois que tu le déposes quelque part, soit on te fait les gros yeux en mode « Oh là, non, désolé, c'est trop pour moi, là, ce que tu me racontes. » Soit on te dit « Bon, écoutez, madame, c'est quand même pas si grave. Des enfants violés, il y en a plein. » Enfin, bon, c'est un peu ça, quoi. Et donc, ça a été un an et demi d'errance et de schizophrénie presque, parce que par ailleurs, je devais absolument... donner le change sur scène, vendre des livres, les dédicacer. C'était extrêmement gênant parce que j'avais plein de gens, plein de femmes qui venaient me dire au combien elles admiraient ma résilience, ma capacité à être encore debout. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais vous vous rendez pas compte.
À l'intérieur.
Je suis à même le sol, je suis là, acculée dans le coin du ring, je n'en peux plus et je ne peux pas vous le dire. Enfin, il y avait quelque chose de très paradoxal dans ce que je vivais. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin de l'écrire.
Je crois que tu pouvais le dire, mais tu t'interdisais de le dire. C'est-à-dire que t'étais pas dans ce chemin-là.
Pas encore.
Pour toi, ouais.
Pas encore. Et puis parce que, je sais pas, dans ces moments-là, je crois qu'on a. C'est une envie aussi de s'accrocher à la vie, mais on a envie de se dire que c'est peut-être pas si grave, que ça va passer. C'est peut-être juste un petit coup de moins bien parce qu'on a beaucoup travaillé ou parce que bah, la période est chargée. On essaye de banaliser le truc pour se rassurer quelque part, en fait.
Il y a peut-être aussi un côté, là je reviens... Chères auditrices et auditeurs, vous pensiez qu'on allait parler de foot, c'est raté.
Mais pas
tu vois,
du tout.
Je reviens... Non mais en fait, c'est ça qui est canon dans ton parcours, c'est que ça me fait aussi dire qu'il y a un côté très dur au mal, en fait, qui va avec ta carrière dans le haut niveau, quoi. Où bah, t'es obligé de... No pain, no gain, quoi.
Absolument. Absolument. Mais là, j'ai quand même eu 2 ans et demi où, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé en face ma vulnérabilité. Ce que j'avais toujours refusé de faire jusqu'à présent. Parce que Mélissa Plaza, elle était au-dessus de ça.
Insubmersible.
Elle était au-dessus de ça. Mais en fait, Mélissa Plaza, elle est comme tout le monde.
Raconte-moi, Mélissa Plaza, elle était au-dessus de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta tête, c'était impossible que tu sois vulnérable, c'est ça?
En fait, c'est assez simple, c'est que pour survivre à ce que j'ai survécu, à l'inceste pendant des années, et puis après être partie très tôt de la maison, m'être débrouillée toute seule, mener de front le foot, le doctorat, j'avais pas le temps pour cette vulnérabilité, j'avais pas le temps de laisser la place à cette vulnérabilité. Je me devais d'être forte, j'étais en mode survivante. J'étais en mode, voilà, je sors de la tranchée et j'y vais. Et quand tout s'est arrêté, voilà, le foot s'est arrêté, la thèse s'est arrêtée, ma situation économique s'est améliorée, ça a été un moment où il y a eu l'espace pour cette vulnérabilité. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de la regarder et de me dire, finalement, ça fait peut-être partie de moi aussi. Et aujourd'hui, je l'accepte et je me rends compte à quel point c'est aussi une force de reconnaître qu'on a ces moments de vulnérabilité et que ça fait partie du chemin, en fait, voilà, tout simplement. Mais il y a eu des moments, très durs, des moments où vraiment c'était effrayant parce que j'avais la mort arrimée au corps, quoi. Et dans ces instants, on se dit, mais...
Quand tu dis que t'avais la mort arrimée au corps, t'étais suicidaire, c'est ça?
Ben, en fait, j'ai jamais été suicidaire, mais je souffrais tellement de la mémoire traumatique, et d'une mémoire traumatique qui était souvent incompréhensible, inexpliquée, que je finissais par me dire, j'ai besoin d'éteindre cette souffrance. Donc c'était effrayant parce que je ne voulais pas mourir. Mais j'avais la mort arrimée au corps, quoi. Et c'est terriblement effrayant parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je vais le faire alors que c'est absolument pas ce dont j'ai envie, quoi? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la mémoire traumatique et dans les conséquences des violences sexuelles, c'est que cette volonté de se détruire, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. C'est l'agresseur qui, un jour, a tenté de nous éteindre, de nous tuer psychiquement, physiquement, etc. Et que c'est cette volonté de nous détruire qui nous colonise et qui parfois revient nous hanter. Donc cette volonté de se détruire, elle ne nous appartient pas. Mais il faut avoir les clés de décryptage, de compréhension et d'analyse pour pouvoir prendre le recul nécessaire dans ces moments-là. Et donc, heureusement pour moi, j'ai été très bien accompagnée par Muriel. Aujourd'hui, je peux dire que ces moments très noirs sont globalement derrière moi. Je ne vais pas dire que tout est parti, parce que j'ai encore des symptômes régulièrement qui sont latents, des trucs qui sont chiants, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, je vais avoir mal aux dents toute la journée.
Mal aux dents?
J'ai mal aux dents, okay. Voilà, aux incisives de devant. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais beaucoup de problèmes aux yeux. J'avais régulièrement des allergies, les yeux qui gonflaient. Et une fois qu'on a compris pourquoi, qu'on a remis dans le contexte, qu'on trouve des scénarios plausibles qui peuvent expliquer les symptômes, bah ça rentre dans l'ordre. J'étais, pour te donner d'autres exemples, parce que ça peut servir aux personnes qui nous écoutent, mais par exemple, moi, j'ai été aménorrhée toute ma vie. Au départ, on avait toujours mis ça sur le dos de la pratique sportive à haut niveau, sur le fait que j'étais très maigre et que du coup, bah, c'était normal, j'étais aménorrhée. Et puis en fait, quand j'ai arrêté le foot, bah, j'étais toujours aménorrhée. Évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai démarré mes séances avec Muriel Salmona, mes règles sont arrivées.
C'est pas vrai.
Mais genre, enfin, minutées, quoi. Genre, c'était vraiment, c'était surréaliste. C'est
le
devenu,
corps est dingue.
C'est surréaliste, quoi. Et plein de choses comme ça où, bah, petit à petit, à mesure qu'on explique les symptômes, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que aussi c'est ma vie très intime, etc. Mais une fois qu'on explique les symptômes par les scénarios potentiels qui ont pu nous arriver, même si on est encore, enfin, moi, je suis encore très amnésique, hein. Je me souviens pas, clairement, j'ai que des bribes, voilà, des petits flashbacks, des choses. Eh bien, une fois qu'on parvient à trouver le bon scénario, eh bien, ça se résout, en fait. Ça se résout. Mais effectivement, il faut être accompagné par quelqu'un d'ultra formé sur le sujet, quoi.
J'ai découvert aussi, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais lu un article qui disait que les maladies auto-immunes frappent essentiellement les femmes, et notamment les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Il y a un côté, en fait, le corps s'auto-ronge, quoi, tu vois.
Ouais, complètement.
Et ça, c'est pareil, on en parle assez peu, en fait.
Bah ouais, et puis, tu vois, des phobies. Enfin, moi, j'avais beaucoup de phobies inexpliquées. Et je me souviens que j'étais toujours. Quand j'étais seule chez moi, j'étais toujours terrifiée que quelqu'un rentre à la maison, alors que tout était fermé, etc. Et puis un jour, alors que je discutais avec une de mes anciennes psys, donc c'était à longtemps, hein, c'était avant même que je sorte d'amnésie, j'avais eu cette phrase, j'avais dit « Oui, oui, en fait, à ce moment-là, je suis convaincue qu'il est rentré. » Et cette psy m'a dit « Donc c'est un il. » Et je lui réponds « Oui, oui, c'est un il. » Enfin, il n'y avait pas de doute pour moi, c'était un il. Mais c'est des petites phrases qui, après coup, quand on les réexamine, on se dit « Ah oui !» En fait, il y avait déjà des prémices, il y avait déjà des choses qui s'exprimaient, mais sur lesquelles je n'avais pas la possibilité, pas l'espace sécurisé et sécurisant pour m'attarder dessus, quoi, très clairement. Et même, je repense à ça, mais dans mon tout premier livre, j'ai cette phrase qui...
Ton tout premier livre qui s'appelle comment ? N'hésite pas à faire de la promo.
Je suis nulle pour ça. Le premier livre qui s'appelle « Pas pour les filles », avec un point d'interrogation, et qui est paru chez Robert Laffont en 2019. Dans ce tout premier livre, dans les premières pages, j'ai cette phrase où je dis « Cette passion, je m'y accroche, enfin ce rêve de devenir footballeuse professionnelle, donc, je m'y accroche comme on s'accroche à la vie quand on est mourant. » J'ai cette phrase quand et je parle de la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans, quoi. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que je réalise pas la véracité des mots que j'emploie. Je vois bien que aujourd'hui que l'inconscient il s'embarrasse pas de pudeur ou de faux semblants. C'est-à-dire que tout était là dans cette phrase, mais j'en avais pas encore conscience à l'époque, quoi.
Ce podcast va faire 1h30 ou 2h. J'espère que t'as pas de rendez-vous après. Je m'en fous, en fait.
Non, j'ai mais pas de rendez-vous.
Ça m'intéresse, en fait, de... J'avais pas prévu, entre guillemets, mais en fait, je prévois jamais rien, comme tu vois, j'ai pas de notes et tout, je suis comme ça, qu'on parle aussi rapidement, tu vois, de ton après-carrière, etc. Parce que j'ai tendance à faire le chemin de façon biographique ou chronologique, quoi, ouais. Tu vois. Si tu veux bien, je veux bien qu'on revienne quelques années en arrière, parce que de rebondir sur la petite fille de 8 ans que t'étais,
ouais.
Et dont t'as parlé très, très rapidement, où tu disais que t'étais une petite fille en colère, et que quelque part le foot te permettait de pouvoir canaliser cette colère, c'est ça à l'époque ?
Ouais, complètement. En fait, le foot, ça a été vraiment...
Tu faisais déjà du foot, donc à 8 ans ?
À 8 ans, je faisais du foot, mais je faisais du foot, en fait, depuis que j'étais haute comme trois pommes.
Oui, depuis que tu savais marcher, en gros.
Voilà, exactement. Mais
comment t'en viens au foot quand t'es une fille, déjà, de base, quand t'es une petite fille, tu vois ?
Bah, on me demande souvent, on me pose souvent cette question, savoir s'il y avait un facteur social. Bon, moi, au départ, il n'y avait pas de papa à la maison, puisque le beau-père est arrivé quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Il n'y avait pas de grand frère, pas de cousin, donc c'était vraiment... Je sais pas, c'était une passion un peu fortuite, quoi. C'était une rencontre... extraordinaire.
Mais t'as des copains garçons qui viennent te mettre au foot ou avec qui tu veux
Non, non, je sais pas. C'est venu comme ça, vraiment. C'est quand je parle de rencontres fortuites, c'est vraiment ça. Mais c'est comme si j'avais compris tout de suite que ça allait être mon vecteur de salvation, quoi. Et ça l'a été, pour de vrai. Le foot a été un vecteur d'émancipation, à la fois d'émancipation sur le plan familial, c'est-à-dire que ça m'a permis de quitter le foyer plus tôt que j'aurais pu l'espérer. Ça m'a permis aussi de faire un joli pied de nez au déterminisme social, parce que finalement, c'est aussi par le foot que j'ai grimpé dans l'ascenseur social. Mais c'est surtout que le foot a été pour moi un moyen de reconstruction, identitaire, c'est-à-dire de trouver la confiance, l'estime dont j'avais cruellement manqué à la maison. Et puis, j'étais talentueuse pour quelque chose, donc forcément, on a envie de s'engouffrer là-dedans. On a envie de, voilà, je suis tombée sur des gens aussi très bienveillants qui ont su voir en moi la petite fille déterminée, qui avait envie de s'en sortir et qui ont joué le rôle de tuteur de résilience. Hein. Et tous ces gens-là, dans ce premier livre, je les appelle les mains tendues. Et c'est vrai.
C'est des entraîneurs à un moment donné, c'est ça? C'est des gens
ouais,
qui...
Des coachs, une copine d'enfance dont les parents avaient très, très clairement vu ce qui se passait à la maison et qui me faisait régulièrement venir chez eux. Donc c'était des parenthèses où je pouvais souffler, où je pouvais aspirer à être l'enfant que j'aurais dû être par ailleurs. Et donc voilà, et le foot m'a permis de m'enfuir. Voilà, à 13 ans, je pars de la maison, j'y remets plus jamais les pieds.
Faire quoi à 13 ans? Alors tu vas dans un centre...
Un internat, ouais. Un premier internat, puis un deuxième, puis à La Roche-sur-Yon, une fois que je suis dans ce club formateur où je trouve des gens géniaux, j'y reste. Et puis en plus, moi, dès 14 ans, je fais mes premiers pas en division 1, donc... La route du haut niveau s'ouvrait devant moi. Après, j'ai mes premières sélections en équipe de France. Je signe mon premier contrat professionnel quand j'ai 20 ans.
Comment ça se passe entre ce moment où tu quittes la maison, 13 ans, et ton premier contrat pro?
C'est la galère.
Parce que là, tu fais un résumé
comme ça, mais...
hyper rapide, mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça.
Non, ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été très dur parce que...
Moi, je t'ai dit, on a le temps, hein, donc tu peux raconter. Hein.
Ouais, en fait, il a fallu avoir un quotidien effréné, quoi. J'avais... Je bossais au McDo, j'avais 3 jours de fac, j'avais en plus mes 6 entraînements par semaine, plus les déplacements le week-end, donc c'était une vie totalement dingue, quoi. Après, j'ai signé pro à Montpellier, donc... Je ne vais même pas dire que la situation s'est améliorée, parce que ce premier contrat pro, je le signe pour 400 euros brut mensuel.
Wow.
Voilà, donc c'était une forme d'esclavagisme. Hein. On s'entraînait 8 fois par semaine, je jouais la Ligue des Championnes, j'étais en équipe de France. Voilà, j'étais payé 400 balles brut par mois, quoi.
C'est complètement dingue. Ça vient d'où, tu crois? C'est pas ça vient d'où, mais ça vient d'où? Déjà, toi, tu te dis, bah, c'est cool de jouer. Parce qu'en fait, t'as envie de jouer, j'imagine.
C'est ça.
Et t'as envie d'aller chercher le haut niveau et tout. Et donc, en échange de ça, on te paye avec un lance-pierre.
Et ben, en fait, à l'époque, on se dit, bah, c'est déjà bien. C'est la première fois que je touche de l'argent pour jouer au foot. Et puis, voilà, on est naïve du monde professionnel. Enfin, je veux dire, moi, j'avais aucune conscience. Je me rendais même pas compte que, en fait, j'étais payé 2 euros de l'heure, quoi. Enfin, moi, j'avais pas conscience de tout ça. Mais c'est vrai que j'étais quand même en colère, que c'était dur. Bah, la vie était dure, hein, parce qu'avec 300 balles, on se paye pas un loyer à Montpellier. Enfin, c'est la croix et la bannière, quoi. Donc, j'avais des bourses. Je ramenais les fruits donc consommés du week-end. Je ramenais ça chez moi. Enfin, c'était la croix et la bannière, quoi. Ça a été des années très dures. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'étais en mode survie. J'avais pas le temps de regarder mes vulnérabilités. J'ai pas le temps de faire ça. Il faut y aller, là. Il faut foncer, quoi. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que je suis sortie d'amnésie après tout ça.
Ouais, après la...
Après tout ça, après ce branle-bas de combat immense, quoi.
Et pendant ce temps-là, tu continues à faire tes études ?
Ouais.
Donc...
Jusqu'au doctorat.
Comment tu décides d'aller en psycho peut-être d'abord, et puis après en psychosocial, c'est ça ?
Alors d'abord, en fait, j'ai fait STAPS. Mais STAPS, c'est pluridisciplinaire. Donc, il arrive un moment en master, notamment en recherche, où il faut choisir une discipline.
Donc, tu étais sport-études, en gros, c'est ça ?
Alors, j'ai sport-études
au lycée,
ouais. Voilà. Et après, j'ai fait une fac de STAPS, donc une fac de sport. Qui m'a plu, mais c'est vrai que je faisais une licence entraînement sportif dans laquelle je m'épanouissais pas forcément parce que j'apprenais pas beaucoup de choses par rapport à ce que je savais déjà dans le contexte sportif. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un master recherche. Et je suis tombée sur une annonce dans un journal d'un laboratoire en psycho.
Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas vers la recherche alors que tu viens du sport, tu vois ?
Bah, justement, en fait, je me voyais pas faire un master pro alors que la licence m'avait pas plu.
Ok.
Et puis je tombe sur ce sujet de thèse, de mémoire où on me propose de bosser sur les stéréotypes de genre en contexte sportif. Donc je me dis, bon, bah, c'est un signe, quoi. Je veux dire, la vie m'envoie des signes. Et voilà, et donc je suis partie en master, et le master recherche nous orientait nécessairement vers un travail doctoral. Moi, ce qui est sûr, c'est que les études, ça n'a jamais été un plan B. Ça a toujours été un plan à prime. Il y avait le foot et il y avait les études. C'était, voilà, j'ai jamais voulu faire de choix entre les deux, justement, parce que c'était ce choix-là que j'avais fait, de faire les deux. Et ce qui semblait effarant pour beaucoup, hein, à la fois dans le milieu du foot, mais aussi dans mon laboratoire, personne ne comprenait que je puisse avoir une vie sportive de haut niveau et faire ma thèse à côté.
Oui, puis ça me fait tilter aussi parce que tu disais tout à l'heure que tes parents étaient ouvriers, tu vois, et t'as aussi, toi, à un moment donné, cette volonté de te dire « Ok, en fait, moi, j'ai envie de faire des études, mais... alors que mes parents n'ont pas fait, quoi. »
Ouais, et il y avait vraiment ce truc de « Finalement, je sais d'où je viens et je veux pas y retourner. » C'est très clair. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a aidée à tenir la dragée haute à mes coachs qui me disaient « Mais non, mais à un moment donné, va falloir faire un choix, etc. » Je leur ai dit « Non, en fait, le choix, il est fait. Je ferai les deux. Et que tu le veuilles ou non, en fait. » J'avais la chance d'être assez talentueuse, en fait, pour pouvoir décider
oui.
ça. Parce que c'est vrai que...
Sportivement parlant, tu veux dire.
Sportivement parlant. Parce que pour beaucoup, je me souviens très bien que celles qui étaient un peu justes, on leur disait « Bah écoute, c'est simple, soit tu vas à ton CM, soit tu viens avec nous ce week-end, quoi. » Donc, il y avait une espèce de chantage très malsain de le foot ou les études, quoi. Et moi, j'avais la chance d'être assez talentueuse pour pouvoir avoir le luxe de décider que je ferais les deux. Donc, ça m'a aidée. Et oui. Effectivement, c'était pas un plan B parce que je voulais me construire en opposition à mes parents. Ça passait par le fait de s'élever intellectuellement, de s'élever culturellement. Et puis, de s'offrir l'avenir que j'aurais pas pu espérer si j'étais restée chez eux, quoi, en fait, tout simplement.
J'en profite pour faire un peu de promo entre mes podcasts. Tu sais, parfois, je fais ça, mais je te dis ça parce que j'ai interviewé dans mon autre podcast Histoire de Daron un mec qui s'appelle Adrien Nazelli, alors qu'il n'est pas père, mais juste c'est un hors-série sur ce qu'il appelle, lui, les transfuges de classe, qui sont tout simplement des gens comme toi ou moi j'en fais partie aussi. Les parents n'ont pas fait d'études supérieure. Et toi, en tant qu'enfant, en fait, t'en fais. Et pour la première fois, il fait parler des parents de la façon dont dont ils voient, en fait, leurs enfants qui sont transfuges de classe.
Ouais.
Si le sujet vous intéresse, les chers auditrices et chers auditeurs, allez écouter. Et toi aussi, de ton côté, si ça t'intéresse.
Avec
parce
plaisir.
Que c'est très éclairant. Moi, c'est un livre que j'aurais adoré lire quand j'avais 20 ans, en fait, tu vois, même 15 ans, pour comprendre un petit peu d'où je venais et pourquoi j'avais envie de sortir du truc. Enfin, c'est hyper bien, vraiment. Donc,
ouais, ça m'intéresse.
Je suis désolé, je ne l'ai plus là, je te l'aurais prêté avec grand plaisir, mais j'ai déjà prêté à une autre pote.
Je vais l'acheter. Non, et puis c'est vrai que moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mentir Bourdieu parce que je me disais, mais...
Pierre Bourdieu, pour expliquer, si vous ne savez pas, c'est lui qui explique en gros que... on est tous englués dans
dans le déterminisme social, voilà. Et que voilà, que si on est issu d'une famille ouvrière, potentiellement on va avoir du mal à accéder à des classes sociales supérieures. Et attention,
ce qui est le cas,
et ce qui est souvent le cas, et il faut pas se mentir, c'est aussi très difficile d'en sortir, que tout le système est fait aussi pour que chacun reste bien dans sa case. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'avais ça en tête, je pense, tout au long de ma carrière, c'était de me dire, surtout, je veux pas leur ressembler, quoi. Et ça m'a guidée, donc j'ai suivi cette voie-là parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Il y avait pas. Et puis aussi, je suis satisfaite d'avoir pris cette option, parce que finalement, quand ma carrière de footballeuse s'est arrêtée, ça a été très inattendu, très soudain. J'avais encore plein de rêves d'équipe de France, de partir à l'étranger, de faire que du foot après ma thèse, etc. Tous ces rêves se sont éclipsés d'un coup d'un seul.
Tu peux peut-être raconter ce qui s'est passé.
Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà cumulé pas mal de blessures au genou. Et puis dans mon dernier club pro... le club me fait jouer blessé, donc je sors sur blessure à un match, et puis finalement, voilà, j'ai été négligée en tant que joueuse, hein, en tant que femme footballeuse, j'ai été négligée, donc on m'a pas offert les examens, les soins nécessaires, et donc on m'a fait jouer blessé pendant des mois et des mois.
Alors pour expliquer, c'est le club dans lequel tu joues à l'époque, c'est l'En Avant Guingamp,
ouais.
Qui est aussi, qui est un club mixte, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi
une section
homme. Qui est en D1, ou peut-être je me trompe, mais
ouais, c'est ça, c'est en ça. D1, ouais, exactement.
Donc il y a des pros, j'imagine qu'il y a un staff médical qui prend soin des joueurs, parce que comme ils sont très payés, les joueurs sont très bien payés, il faut en prendre soin.
Mais pas des joueuses.
Les joueuses sont de ce fait-là mal payées, donc il y a aussi un peu un cercle vicieux qui joue autour de ça, c'est-à-dire que comme tu n'es pas très bien payé, on prend moins soin de toi, parce que finalement tu constitues... capitalistiquement parlant, un investissement moindre, quoi.
C'est ça. Donc c'est on fou. Avait un médecin qui disait bénévole. Voilà, un médecin bénévole qui était... je sais pas si on peut appeler ça un médecin, mais bref. Donc du coup, ils m'ont fait jouer blessé pendant des mois et des mois. Et puis, un beau jour, n'en pouvant plus, j'ai pris les choses en main. Et
toi, tu joues blessé.
Je joue blessé.
Et absolument. Tu mords sur ta chic.
Exactement. Et puis, mais bon, il faut aussi
on revient
resituer...
no pain no gain, hein, tu vois.
Ouais.
Toujours ce truc de.
Et puis, il faut resituer, c'est que en parallèle, j'essayais péniblement de terminer ma thèse. Je venais de changer de club, de quitter l'Olympique Lyonnais, en me disant, il faut absolument que je retrouve du temps de jeu pour retrouver l'équipe de France. Donc
en gros, tu jouais à l'Olympique Lyonnais, qui est un des gros clubs.
Ouais, le plus gros club.
Voilà. Et de ce fait-là, tu faisais le banc, en fait.
Je faisais le banc.
Pas de temps de jeu.
Et puis voilà, je prenais énormément de plaisir, hein, même en étant remplaçante à l'Olympique Lyonnais. J'aurais aimé poursuivre là-bas. Mais j'avais l'équipe de France dans un coin de ma tête et je me disais, il faut absolument que je joue si je veux faire les JO de Rio, quoi. Donc je me suis dit, je vais partir dans un plus petit club pour retrouver du temps de jeu.
Pour te montrer un petit peu et pour que les sélectionneurs se disent, tiens, en fait...
Il y a celle-là. Et voilà, et donc ça s'est pas fait comme prévu. Et puis quand j'ai pris les choses en main, je me suis rendue à l'évidence, c'est que j'avais quelque chose d'assez grave au genou, qui était irréversible, et que la prothèse me pendait au nez d'ici à 5 ans. Et voilà, et donc il a fallu faire un choix, et ça a été le choix de la santé. De préserver mon capital santé. Donc, c'est pour ça que c'était important d'avoir mené jusqu'au bout ce doctorat. Parce que c'est aussi ce qui m'a permis de monter sur scène pour la première fois pour donner cette conférence TEDx. Et ensuite, de devenir conférencière. Donc, j'ai pas du tout de regrets. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. J'ai ce discours-là aujourd'hui. Mais au tout début, c'est vrai que quand le foot s'est arrêté, il y a eu des mois et des mois durant lesquels ça a été le néant, où je me suis dit, mais qui suis-je? Que vais-je faire encore? Où je voyais les listes de l'équipe de France sortir et je pleurais. Je me disais, mais je vois toutes ces filles-là avec qui j'étais il n'y a pas si longtemps que ça et j'aurais dû y être, en fait. Pourquoi je n'y suis pas?
Donc, tu n'es pas allé aux JO aussi, de ce fait-là?
Ni les JO, ni la Coupe du Monde au Canada, ni la Coupe du Monde en France.
Et puis, parce que disons qu'à 33 ans, t'es encore en âge de pouvoir...
Bah, j'avais 27 ans à l'époque. Wow. J'avais 27 ans à l'époque.
On peut dire qu'entre 27 et 30, en général, les sportifs sont au top de leur niveau parce qu'ils ont cumulé suffisamment d'expérience pour pouvoir être au top et pour pouvoir avoir engrangé justement de l'expérience. Et en même temps, physiquement, tu continues à tenir le coup, quoi.
Exactement. Et puis moi, j'avais en tête, une fois la thèse terminée, de me consacrer entièrement au football, de voir ce que j'étais capable de faire, si je faisais que ça aussi. Bon voilà, ça s'est pas fait comme c'était prévu. Et puis je pense la plus belle leçon que j'ai apprise de cette épreuve, c'est que à un moment donné il faut arrêter dans la vie de se demander si ce qui nous arrive est juste ou injuste, parce qu'on n'avance pas comme ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Et quand on réfléchit comme ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus digestes aussi. Et c'est ce qui m'a permis de me projeter. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette conférence TEDx, là, qui s'appelle « Désolée ma puce, ça n'existe pas pour les filles », je t'avoue, j'apprends, je la termine en disant « Si j'avais pas fait de foot, je serais passée à côté des plus beaux moments de ma vie. » Et à ce moment-là, quand je dis cette phrase, j'y crois dur comme fer. Je crois vraiment que j'ai vécu les plus belles années de ma vie et que c'est terminé. Et en fait, bah, toute la suite va me montrer que, en fait, il me reste encore des choses incroyables à vivre, que remplir les stades, c'est très bien, mais que remplir les scènes, c'est jubilatoire aussi. Et que délivrer les messages sur l'égalité femmes-hommes, sensibiliser à travers mon parcours, à travers mes slams, voilà, à travers mes prises de parole, que ça, c'est quelque chose d'encore plus beau, dans lequel je me sens encore plus utile, dans lequel je me sens reconnue, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis reconnue en tant qu'ex-footballeuse. Mais cette reconnaissance, je l'ai gagnée sur la scène, en fait. Je ne l'ai pas gagnée sur le terrain, je l'ai gagnée sur la scène. Et ça, c'est d'autant plus honorifique, quoi.
Aujourd'hui, tu te dis ça, mais enfin, la Mélissa d'aujourd'hui se dit que c'est cool, mais j'imagine que la Mélissa qui était sur les terrains avait envie de briller, quoi, tu vois. Et ouais. Je peux comprendre en plus. Hein.
Oui, elle avait envie de briller.
Parce que c'est quand même c'est quand même ta vie, tu vois, le foot jusque-là.
Oui, elle avait envie de briller, mais elle était aussi, elle avait des entraves dans ce milieu-là. Donc en fait, elle pouvait pas briller. La Mélissa de l'époque, elle était en colère parce qu'elle en avait ras-le-bol d'être dans un milieu qui ne la considérait pas. Je pense aujourd'hui que j'aurais jamais pu briller comme je le brille aujourd'hui parce que le contexte ne me le permettait pas. J'étais en colère parce que on était discriminés tout le temps. On avait le terrain, le petit quart de terrain à la nuit tombée parce que tous les garçons avaient réservé les créneaux. On avait des chaussettes en taille 45-48 parce qu'il reste que ça chez les garçons. C'est les déplacements en bus scolaire, les sandwichs au débo sur l'heure d'autoroute mal famée. Enfin, tout ça, en plus des inégalités salariales évidemment, et du manque de médiatisation, de considération, des injonctions à la féminité permanente, tout ça, au bout d'un moment... c'est pesant et ça freine tes performances. En tout cas, moi, ça freinait les miennes et ça nourrissait ma colère. Et c'était une colère en plus qui était pas partagée. C'est-à-dire que mes copines étaient tellement stockholmisées qu'elles n'arrivaient pas à être en colère.
Stockholmisées.
Non, mais je leur jette pas la pierre parce que c'est très dur en fait d'être en colère dans un système où on est opprimé, où on a peu de place pour s'exprimer, peu de place pour exister et que notre place est précaire.
Oui, puis il faut expliquer que quand t'es sportif de haut niveau, tu grandis là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as jamais rien connu d'autre en fait. Donc forcément.
Et puis cette misogynie, elle se double de la culture du dolorisme qui est quand même très présente dans le sport.
Le dolorisme. La douleur.
De la douleur, c'est ça. Exactement, le fait d'aller tout le temps, de justifier la performance par la douleur extrême. Et puis par aussi, quand j'entends douleur, j'entends douleur physique, mais douleur psychique aussi. Parce que on estime que la bienveillance, c'est pas ce qui va nous amener à être performant. Mais je pense qu'il y a quand même des... Enfin, aujourd'hui, si on mettait des coachs en entreprise et qui se comportaient comme ils se comportent sur le bord du terrain en entreprise, bon, il finirait au prud'homme, quoi. Mmh. Donc pourquoi est-ce que dans le sport, on autorise de tels comportements déviants qu'on n'autoriserait pas dans n'importe quel autre contexte professionnel ?
Tu crois pas qu'il y a un truc aussi de répétition, en fait, tu vois, tout comme les enfants battus finissent par battre leurs enfants, etc., quoi, tu vois.
C'est ce qu'on a eu, donc c'est comme ça.
Et ça a marché, voilà.
Ouais, et ça a marché. Ah oui, mais si on avait fait différemment, tu penses pas que ça aurait marché mieux? Tu vois, c'est aussi tout
c'est
ça,
dur
quoi.
C'est dur d'enclencher le changement et de se dire, vas-y, viens, on peut faire différemment, quoi.
Complètement. Et donc, moi, du coup, dans ce système, dans cette inertie, je me sentais inutile, je me sentais pas reconnue comme je le suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus impactante que j'ai pu l'être en étant relayeuse à Montpellier ou à l'Olympique Lyonnais. Ouais, alors que c'est un poste clé, je veux dire, c'est le poste où tu donnes le tempo, où tu fais les choix, où tu récupères défensivement, où tu lances les contre-attaques. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est hyper paradoxal, quoi. Mais je me sens beaucoup plus impactante aujourd'hui.
Et un autre truc aussi dont je voulais te parler, c'est l'histoire de la compétition, tu vois. L'un des trucs contre lesquels je me suis battu, moi, pendant toute ma carrière chez Mademoiselle, c'est que la plupart des filles qui venaient chez Mademoiselle pour faire leur métier, tu vois, elles avaient en sainte horreur l'idée de la compétition. Parce que pour elles, il y avait un truc de... Alors, la plupart ne faisaient pas de sport, tu vois. Donc, celles qui faisaient du sport en général, elles avaient ce truc. Mais bon, il y a aussi ce truc où on n'incite pas les filles à faire du sport. Enfin, tu vois, un peu un cercle vicieux autour de ça. Et en fait, elles avaient dans l'idée que la compétition, c'est forcément écrabouiller les autres, tu vois. Alors que pour moi, dans ma tête, qui fait du sport, du basket pendant des années, c'était plutôt, bah, effectivement, l'objectif, c'est de battre les autres, mais avant tout, c'est de se dépasser soi. Mmh. Et je ne sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça, justement, parce que...
Bah, en fait, c'est très compliqué, c'est qu'il y a les deux dans le milieu du haut niveau. Il y a les deux. Il y a vraiment la volonté d'écraser l'autre qui est très présente. Et la volonté de se dépasser. Et je pense qu'on n'accentue pas assez, on met pas assez l'accent sur le fait de se dépasser soi avant d'écraser les autres. Mais dans les sports collectifs, nécessairement, le fait d'écraser l'autre, c'est très présent aussi. Parce que ta place, elle s'acquiert au détriment d'une autre. Donc il faut pas se leurrer non plus. C'est pas le sport, c'est pas le monde
des bisounours.
C'est pas le monde des bisounours, hein, vraiment.
Il y a peu de place.
Peu d'élus. Enfin voilà. Donc ça demande par moment, je pense, d'aller plus loin encore que le simple dépassement de soi, malheureusement. Mais ça c'est très social en fait, que les femmes n'aiment pas la compétition. C'est juste que on leur a appris dès le plus jeune âge à être très docile, à faire la place aux autres, voilà. Donc c'est pas très étonnant ce constat.
T'as une anecdote folle aussi où vous êtes à la mi-temps en train de gagner 3-0.
Ouais.
Ce qui est déjà c'est bien 3-0 en général, ouais. C'est une bonne marge au foot pour les gens qui connaissent pas le foot. C'est plutôt cool, quoi.
C'est plutôt déjà très bien.
Ouais. Et en fait, vous arrivez avec 3-0 à la mi-temps, et là, votre coach...
Ouais, le coach de l'époque, qu'on ne va pas citer, parce que je ne veux pas me retrouver au tribunal.
Il t'a menacé ?
Non, mais...
Il pourrait.
Okay. et pas juste au sens métaphorique du terme, si tu vois ce que je veux dire.
Non.
Bah, c'est pas le genre de gars que tu as envie de provoquer, quoi.
Ok.
Wow. Ouais.
Et donc, tu veux dire physiquement ?
Physiquement.
Ok. Non, mais pour dire les choses clairement.
Pour dire les choses clairement. Et effectivement, il est arrivé dans le vestiaire très fâché, comme il l'était souvent en fait. Et il nous a dit un truc qui m'a marqué et qui me marquera pour le reste de ma vie. Il nous a dit, en nous regardant droit dans les yeux et en nous pointant du doigt, une à une, vous voulez faire les salopes avec moi ? Je vais toutes vous baiser une par une. Si vous mettez pas 8-0, si on met pas 8 buts, vous rentrez à pied. S'il n'y a pas 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied. C'était ça la phrase. Et je me souviens du silence de morte qui régnait, ce qui était surréaliste, parce que faut imaginer, les femmes qu'il y avait dans ce vestiaire ont un tempérament d'acier, quoi. Un tempérament d'acier.
Elles sont toutes à ce niveau-là de leur discipline, quoi. Non,
c'est ça.
Elles sont au top.
C'est des guerrières, c'est des badass, quoi. Et silence de morte dans le vestiaire. Et moi, je réalise la teneur des propos en traduisant à Megan Rapinoe qui est à côté de moi. Parce que Megan me demande qu'est-ce qui se passe, quoi.
Megan Rapinoe qui est, elle, connue parce que c'est...
La joueuse emblématique aux États-Unis, voilà, qui défend...
Le soccer étant hyper populaire pour le coup.
Oui.
Enfin, le soccer...
Le soccer étant un sport plutôt pratiqué par les femmes.
Féminin, voilà. Le foot pour eux, c'est plutôt les bonhommes qui se rendent dedans avec une balle.
Le foot américain, c'est ça.
Foot, yes.
Et donc, je traduis à Megan et en fait, Megan était déjà hyper dissidente, quoi. Donc, elle éclate de rire. Elle éclate de rire et moi, je suis terrifiée, en fait. Elle éclate de rire, moi, je suis terrifiée. C'est ça, la différence, quoi.
Ton éclat de rire, à l'époque, il veut dire... Mais...
Il se prend pour qui? Et donc, du coup, c'est vraiment une scène qui m'a marquée parce que je me suis dit, en fait, on n'a rien dit. Il est sorti du vestiaire. On a joué la deuxième mi-temps et on a gagné 8-0. Ce niveau de soumission...
Des bonnes petites soldates.
Ouais. C'était vraiment... Et puis c'est surtout, voilà, quand je parle de culture du dolorisme doublé de la misogynie, là on va dire, ben non, c'est normal, voilà, ça fait partie du folklore. Hein. Bon, de toute façon, et regardez, ça marche, elle gagne 8-0. Donc on est rentré en bus. C'était loin, hein. Rodez-Lyon, ça aurait pu être loin quand même.
Rentrer à pied, c'était chaud.
C'était chaud de rentrer à pied. Et voilà, il y a des anecdotes comme ça. Il y en avait malheureusement à l'appel. Et puis, bah, voilà, ces mecs-là, on les dégage sans inscrire sur leur dossier en rouge, misogyne finie, à ne surtout pas embaucher dans le prochain club. Donc, du coup, bah, ces mecs-là, après, ils filent dans d'autres clubs. Ils sont payés des milliers par mois. Voilà, c'est surréaliste, quoi.
Donc, tu veux dire que... Tout en haut, en termes d'instances au niveau de la Fédé, de foot, ils n'ont pas encore vraiment pris conscience de MeToo, quoi.
Alors ça, c'est sûr, mais c'est surtout qu'au sein des clubs, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut.
Okay.
Donc il n'y a pas que la Fédé, mais la Fédé aussi est instigatrice de politiques en faveur de l'égalité ou non.
Oui.
Et en l'occurrence, on est plutôt dans le non avec la Fédé. On est plutôt dans le déni, on est plutôt parce que c'est voilà, c'est aussi on parle de MeToo, mais c'est sorti dans tous les sports et comme par hasard la fédération qui compte le plus de licenciés, on est à 2,2 millions de licenciés. Fédération de foot, non, aucun problème, pas de violence sexuelle. C'est un peu étonnant quand même. Donc en fait, il y a des choses qui sont en train de se préparer, il y a des médias qui sont sur le coup, mais la Fédé a le bras tellement long que ça ne sort pas. Voilà. Donc des prédateurs, il y en a plein, plein les clubs de foot. Mais là, il va falloir batailler dur pour qu'on puisse se faire l'écho de ces histoires de femmes survivantes et de garçons aussi survivants, parce qu'il y a eu aussi des garçons.
Bien sûr, n'oublions pas les garçons.
Oui, ouais, bien sûr, parce que les enfants sont très touchés. Voilà.
C'est sorti, je ne sais pas si tu as vu le rapport Sauvé, là, dans la pédocriminalité dans l'église notamment, et il y a beaucoup de garçons qui...
Ouais.
Qui en ont fait les frais aussi.
Alors, en fait, pour l'instant, on a des chiffres, mais qui sont des chiffres erronés, parce qu'on a en gros 135 000 petites filles violées par an et 30 000 garçons. Mais c'est très certainement sous-estimé, et sans doute encore plus sous-estimé chez les garçons, parce qu'avec le tabou, le fait de ne pas pouvoir dire, encore moins dire quand on est un garçon, qu'on a été violé, quoi. Donc effectivement, je pense que là, on est très très loin du compte.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais trouvé, comment dire, une voie après ta carrière de footballeuse, en fait. Mais t'as pas l'impression que ça va aussi avec ton chemin perso? C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que, tu vois, t'avais, et je te dis ça en toute bienveillance, hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait ce truc en toi où t'avais la sensation que tu pouvais pas donner tout ce que tu voulais, et que de ce fait-là, il y avait un truc où tu avais la sensation d'être retenu, tu vois, ce que je peux comprendre, hein, par tout ce que tu racontes, par la misogynie latente dans les clubs, etc. Et que depuis, en fait, ça va avec. C'est-à-dire qu'en même temps que tu as quitté ce milieu, tu as aussi, alors bien sûr, tu as ce truc de vide qui t'a peut-être incité à regarder en toi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Je suis à côté de la plaque ou...
Non, bah en fait, c'est évidemment un chemin d'émancipation. C'est-à-dire que là, je suis aussi indépendante professionnellement parlant. Donc, je gère mon emploi du temps comme j'ai envie. Je travaille avec qui j'ai envie, sur les projets qui m'enthousiasment. Donc, évidemment, c'est un tout. Et puis, je suis libérée des entraves, puisqu'il n'y a plus personne qui me dit quoi faire, quand faire. Donc, ça, c'est une liberté incroyable dont je jouis, dont j'ai pleinement conscience. Donc, j'en jouis d'autant plus. Après, c'est vrai que je pense aussi que j'arrive un peu plus à être moi-même parce que justement, je suis en train de retrouver les pièces du puzzle qui manquaient. Donc, le puzzle est en train de s'assembler et quand on sait précisément d'où on vient, je pense qu'on arrive un peu mieux à savoir où on va, tout simplement. C'est un peu bateau comme phrase, mais je pense que c'est assez juste en fait.
C'est pas bateau du tout en vrai.
Ouais, je sais pas, en tout cas, j'ai vraiment le sentiment de ces dernières années, d'être allée à la rencontre de moi-même et de tout ce que j'avais laissé derrière pour les bonnes raisons, hein, pour des questions de survie, hein, tout simplement. Mais effectivement, aujourd'hui, je comprends mieux cette colère, je comprends mieux ces engagements, je comprends mieux pourquoi les injustices et les violences me brisent tant, pourquoi elles me font si mal et pourquoi j'ai envie de me lever chaque matin avec la volonté de changer le monde, quoi.
Tu me disais tout à l'heure en micro, je ne sais pas si tu voudras garder ça ou pas, mais que tu as du mal parfois à voir la colère dans le monde, enfin à voir les injustices dans le monde et à voir la colère qui en résulte, et que tu ne sais pas trop comment gérer ça aujourd'hui par rapport à ton propre chemin, en fait.
Oui, mais parce qu'en fait, évidemment, ça me met très en colère, les injustices et les violences, notamment les violences faites aux femmes. Mais c'est juste que au quotidien, être tout le temps en colère, c'est très coûteux. Et que cette colère, elle a été longtemps moteur chez moi, mais aujourd'hui, elle est plutôt inhibitrice. Donc j'essaye plutôt d'être dans la création. Et c'est vrai que par les mots, c'est une façon pour moi de peut-être canaliser cette colère et de la transformer en quelque chose de positif, on va dire. Même si je ne fais pas d'injonction, je fais pas d'injonction à transformer sa colère en quelque chose de positif.
Je te demande de parler de toi.
Voilà, c'est mon chemin.
N'hésite pas à parler de toi.
C'est mon chemin à moi et c'est là où je trouve un peu plus de satisfaction. C'est-à-dire dans le fait de créer des choses et qu'elles soient utiles à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et c'est pour ça que les slams, pour moi, c'est un exercice extrêmement galvanisant parce que je me mets au défi d'être toujours créative, d'avoir toujours les meilleures punchlines, d'être toujours au plus juste de l'histoire que cette femme vient me confier, par exemple. Et puis surtout, je me dis, cette histoire, si elle peut éclairer cette femme et puis d'autres femmes, c'est gagné en fait. Donc c'est tout l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de garder cette colère qui est saine et qui est digne, mais de pas trop la nourrir non plus au quotidien pour préserver ma santé mentale aussi, parce que ça reste fragile. Il faut en prendre soin pendant longtemps. Moi j'ai laissé de côté, Et aujourd'hui je suis décidée à faire en sorte d'être la garante de cette santé mentale. Donc,
de ta propre santé mentale.
De ma propre santé mentale.
Ce qui est une très bonne idée.
C'est une très bonne idée.
D'être propre garante de ta propre santé mentale.
Ouais, et puis c'est surtout que maintenant je me connais, je sais que... Moi j'ai eu beaucoup de chance, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, beaucoup de chance d'avoir le sport parce qu'il y a beaucoup de victimes de violences sexuelles qui ont des conduites dissociantes. Donc, ces moments où on essaie de s'anesthésier pour ne plus rien sentir par la drogue, par l'alcool, par les médicaments, par les scarifications. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma conduite dissociante, ça a été le sport. Et que cette conduite dissociante, c'est une conduite dissociante, mais c'est aussi une conduite d'évitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller trop au-delà de nos limites parce que sinon le corps casse et donc on ne peut plus se dissocier. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et donc, moi, mes conduites dissociantes, si j'ose dire, mes conduites d'évitement, c'est le sport et c'est les mots, c'est l'écriture. Et effectivement, c'est moins dangereux pour la santé. Donc, j'ai en ça beaucoup de chance puisque je suis préservée des conséquences et du cercle vicieux d'autres conduites dissociantes qui, finalement, quand on prend des médocs ou de l'alcool ou de la drogue, en fait, c'est un trauma qui nourrit le trauma et on s'en sort difficilement, quoi. Donc, j'ai en ça beaucoup de chance d'avoir eu le foot dans ma vie parce que c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et c'est pas le cas de tout le monde parce que dans ma famille, du coup, on est plusieurs enfants. Et ça n'a pas été... Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est leur vie.
Oui.
Et ça les regarde. Mais on a eu trois parcours complètement différents. Et les conséquences n'ont pas du tout été les mêmes sur nos vies, en tout cas. Voilà, donc c'est important de le préciser que moi, le sport, bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Et bien sûr, c'est un milieu qui m'a ramené aux violences que je fuyais au départ. Mais ça a été aussi, en première instance, un vecteur de salvation, quoi.
Merci pour tout ça, vraiment. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et sur lequel je ne t'ai pas amené?
Bah,
1000.
Je
vais te faire une liste.
Je ne sais pas, on a déjà beaucoup... J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. C'est passé vite. Non, c'était très bien.
C'était très bien.
Merci beaucoup.
Non, mais merci à toi, vraiment, pour cette vulnérabilité, déjà.
Ouais, qu'on donne à tout le monde, là. C'est
ça
bien.
Ça fait plaisir. Et j'espère que ça va parler à plein de gens. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc, merci beaucoup. C'était cool.
Super, merci.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, sur Instagram. Donc, j'ai un compte public, Mélissa Plaza 8. Et j'ai un compte sur lequel je slame qui s'appelle La Taxe Écarlate.
On mettra tous les liens dans les notes. Voilà. Ça se passe comme ça dans les podcasts.
Twitter aussi, c'est Mélissa Plaza. Et je suis en ce moment changemaker pour LinkedIn.
Oui.
Donc je fais des posts sur l'égalité femmes-hommes au travail toutes les semaines, donc je suis sur LinkedIn aussi et je pense que j'ai fait le tour. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre mes slams, il va y en avoir plein d'autres. N'hésitez pas à me contacter pour les conférences, tout ça, c'est pareil, c'est sur mon site internet.
Merci beaucoup, Mélissa Plata.com. On mettra tous les liens dans les notes,
oui, voilà.
Mais vous voulez cliquer, comme ça c'est plus simple. Un grand merci à toi, en tout cas, c'était super.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.